Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer sur l'Apocalypse. Ce livre qui va nous prendre des séances et des séances et des séances. Ce livre qui veut dire révélation, qui a été traduit Apocalypse en français.
Et
je vous rappelle qu'une révélation, c'est l'action de dévoiler en grec. On enlève un voile.
Il
y a une connaissance qui existe, cette connaissance est là. Mais d'un seul coup, Dieu enlève le voile pour qu'une personne à qui il révèle les choses puisse voir ce qu'il y a. Et c'est exactement ce que veut dire ce mot révélation. Donc nous avons vu que ce livre est un livre qu'il faut prendre avec à la fois précaution, mais aussi bien comprendre ce qu'il y a. Parce que malheureusement, quand on parle d'Apocalypse, les gens pensent tout de suite catastrophe, catastrophe, catastrophe. Et nous avons vu que vraiment l'Apocalypse, eh bien, ça n'a rien à voir avec un livre de catastrophe, ça a surtout à voir la finalité du royaume de Dieu. La restauration et l'instauration du royaume de Dieu. Où Dieu va reprendre la gestion de sa propriété, la terre. Et il va établir l'ordre divin. En tout cas pendant 1000 ans. Et puis après, pour l'éternité. Mais avant de le faire pour l'éternité, il va recréer la surface de la terre. Et il va y avoir une harmonie parfaite entre le monde spirituel et le monde matériel. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je vous le rappelle. Parce que la Bible nous dit clairement que cette création a été amenée à la vanité, soumise à la vanité. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu tout au début, mais il y a un certain nombre de choses dans lesquelles il faut faire attention à propos de l'Apocalypse quand nous étudions l'Apocalypse. On a vu qu'au chapitre 1, Jean faisait des salutations, ensuite il va avoir la révélation, la vision extraordinaire qu'il a de Jésus glorifié.
Et
puis chapitre 2 et 3, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est les lettres aux sept églises. Jean voit Jésus avoir sept étoiles dans sa main. Et il marche au milieu de sept chandeliers d'or. Et nous avons vu que les sept étoiles, c'est évidemment les sept anges, un ange pour chaque église. Et nous avons vu que les vraies œuvres de Dieu ont un ange. Et je vous ai montré clairement la différence entre une vraie œuvre de Dieu et une œuvre qui se dit être de Dieu et qui est initiée par les hommes. Parce que nous avons malheureusement beaucoup d'œuvres qui ne sont pas divines et qui se nomment être divines. Et nous avons vu que les chandeliers représentent des églises. Et évidemment, une église, ça brille. C'est au travers de l'église que la connaissance de Dieu est transmise dans ce monde. que Dieu transmet son message, l'évangile, la bonne nouvelle de Christ.
Niho Imana itanga ubutumwa bwayo bwiza bwa Kristo.
Donc nous avons vu que Jésus fait donc s'adresse à cette église, et ces sept églises existaient à l'époque de cette révélation dans l'Asie mineure, c'est-à-dire dans l'ouest de la Turquie.
Twarabonye ko aya mashengero yandikiwe amakete, yari amashengero abaho ico gihe muri Asia bita ntoya, ubunye ni mu burengero bwa Turquie.
Donc comme on le voit ici dans le sud de l'Europe.
Nkuko mushobora kubona ni amajepfo muri Iburaya.
Dans la Turquie actuelle.
Muri Turquie ya kino gihe.
Dans cette province d'Asie mineure.
N'ahantu maha muri iki gice cy'Asia.
Et quand on voit ces sept églises,
eh bien,
on s'aperçoit que, en fait, dans chaque église, ça fait une sorte de tour comme ça. En fait, ça fait comme ça, ça tourne comme ça. Et ce message à chaque église,
eh bien,
nous apprend beaucoup de choses. Nous apprend beaucoup de choses sur les conditions des églises. Certains ont vu cette période de l'histoire de l'église, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de schéma ou d'interprétation. Les différentes périodes de l'histoire de l'église depuis la résurrection de Jésus. Et en fait, on s'aperçoit que ça colle pas tout à fait. Il y a des choses qui sont un peu similaires, mais ça colle pas tout à fait. Alors, dans la première église que nous avions vue, c'est Éphèse, hein, c'est le premier message qui est adressé. Et en fait, on s'aperçoit que Éphèse, c'est l'église qui est bien enseignée. Mais on a vu que c'est une église qui se replie sur elle-même. Tout le monde est très largement béni. Mais les perdus, on s'en occupe plus vraiment. On a vu que c'est une église qui est très bien enseignée. Elle avait quand même quelques dizaines d'années, parce que c'est la seule église dont on a vraiment la naissance dans
Acte 19.
Et elle avait environ, je dis bien environ, une cinquantaine d'années quand Jean reçoit la révélation et le message, donc adressé à Éphèse. C'est une église qui ne se laissait pas faire. Les faux serviteurs de Dieu avaient la vie dure quand ils s'approchaient de cette église. Par contre, le Seigneur lui dit clairement, tu as abandonné ton premier amour. Et là aussi, je vous ai montré un peu un des dangers qu'on peut courir.
Hein,
en tant qu'église ou en tant que chrétien, c'est en fait le fait de, bon, une fois qu'on est très largement béni, en fait, notre relation avec Dieu passe un peu après, parce que tout va très bien. Plus nous sommes bénis, plus nous ne devons pas nous attacher à la bénédiction, mais nous attacher à celui qui est la source de toute chose. Souvenez-vous toujours de ça dans votre vie. Vous pouvez avoir des domaines où vous pouvez connaître une bénédiction de manière incommensurable, c'est-à-dire gigantesque, infinie quasiment. Ne vous attachez pas à cette bénédiction. Attachez-vous au Seigneur. C'est ça qui est important. Dieu est éternel, ta bénédiction n'est pas éternelle.
Oh, hallelujah.
Amen.
Amen. Imana yo izokwamaho ariko ibintu ntibizokwamaho.
Il faut jamais oublier cette dimension.
Ibintu tukabyibagire.
Si tu es béni,
nimbuhezagiwe.
Attache-toi à lui.
Ifatanye n'Imana.
Aime-le davantage.
Yikunde kurusha.
Serre-le davantage.
Yikorere kurusha.
Et que vraiment ta bénédiction
umugisha wawe
ne se change pas en malédiction.
Ntuhinduke umuvumo.
Comme malheureusement beaucoup de chrétiens, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient,
nkuko benshi abakristo bishibashikira,
ils se sont complètement refroidis.
Usanga yaronse icyo yagomba agacakanya.
Alors ensuite, Jésus va s'adresser à Smyrne, la deuxième église.
On
ne sait pas quand est-ce qu'elle a été faite, démarrée cette église. Mais on sait que c'est une église qui se fait dominer. C'est l'église qui ne vit pas à la lumière de son héritage. Et là, Jésus la réconforte parce qu'il sait que de toute façon, elle va vivre un moment difficile.
Kuko yarazi ko rizoca mu bihe
bigoye. Et vous savez quand des gens vivent des choses difficiles.
Burya rari abantu baciye mu bihe bigoye.
Qui n'ont pas beaucoup de foi.
Ugasanga nta
kwizera. La seule chose que vous pouvez faire c'est les réconforter.
Ikintu cyo nyine ushobora kubabwira no kubaremesha.
Mais vous ne pouvez pas leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils grandissent en quelques minutes ou en quelques jours.
Ariko nta cyushobora kubaha cyo tuma bakura mu minsi mikenya cyangwa mu masaha.
Donc c'est ce que Jésus va faire avec cette église.
Ikintu cyo Yesu yakoze kuri iri shengero.
Mais elle ne sait pas vivre dans son héritage.
Ntiya ririzi kuba mu muco wayo irage.
Elle se fait dominer.
Iraganzwa.
Par les circonstances.
Iganzwa n'ivyo ricamwo.
Et par les gens.
Iganzwa n'abantu.
Ensuite Pergame. Ça, c'est l'église qui va laisser des manifestations démoniaques prendre le dessus. Le mélange du monde spirituel divin et des manifestations sataniques. Je vous le rappelle, tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément divin. Même si on dit que c'est fait au nom de Dieu, il faut savoir discerner la source. Et cela demande de la maturité. Et ils étaient vraiment séduits, ces gens-là. Ensuite, nous avons vu
Thyatira.
Alors, Thyatira, eux, ils avaient carrément laissé une fausse prophétesse. Et les leaders de cette église laissaient cette fausse prophétesse faire tout un tas de choses dans l'église. Et ils le savaient, mais apparemment ils avaient des avantages. Et Jésus reprend sévèrement les serviteurs de cette église pour qu'ils se corrigent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait cette fausse prophétesse, que ce n'était pas une vraie servante du Seigneur, mais il la laissait faire des choses. Il la laissait même exercer le ministère dans l'église. Et ça, Jésus les reprend très sérieusement. Alors, ensuite, nous avons vu Sardes, la cinquième. Et là, Sardes, c'est quasiment une église qui est morte. Et en fait, c'est le mélange des vrais et des faux chrétiens.
Et
nous avons vu que Jésus les exhorte à revenir aux sources originelles de la vérité. Parce que le jour où Jésus va revenir, il va enlever ceux qui sont nés de nouveau. Pas ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais ceux qui vraiment ont déployé des œuvres. C'est-à-dire, vraiment, la foi, quand vous êtes nés de nouveau, vous avez la vie de Dieu en vous. Et cette vie doit produire quelque chose. C'est pour ça que Jacques, je vous le rappelle, se fâchait dans son épître. Parce qu'il voyait des gens qui se réclamaient de Christ et qui ne portaient aucun fruit. Ils avaient nettoyé, comme disait Jésus, l'extérieur du plat, mais à l'intérieur c'était pourri. Ils ne portaient pas de fruits. Et ces gens-là, entre autres, de cette église, étaient ce genre de personnes. Et je vous ai montré à propos du livre de vie et aussi de faire la différence entre la récompense qui peut être perdue et aussi quand on parle de la perte du salut. Je vous ai dit de faire extrêmement attention parce que très souvent, malheureusement, on dit qu'il y a des gens qui ont perdu leur salut alors qu'ils n'étaient même pas sauvés. Ils fréquentaient une église, ils se sont fait même baptiser, ils venaient parce que finalement soit ils avaient des vues sur une fille ou un garçon et ils étaient là, ils ont fait semblant de prier entre guillemets, mais ils n'étaient pas transformés par la puissance de Jésus. Et malheureusement il y a des gens comme ça. C'est triste à dire. Quand nous sommes dans des nations où les gens s'intéressent, entre guillemets, à Dieu, pour ce que Dieu peut faire pour eux, eh bien, nous nous retrouvons avec ce genre d'église. Si nous ne veillons pas et si nous ne donnons pas un message qui est clair, il y a un message de fondation de l'évangile. Il
ne
faut jamais l'oublier, il faut toujours revenir à ce message. Alors, ensuite, nous avions vu la sixième église. Et nous en étions là et nous allons relire ce que Jésus dit à cette église et nous allons finir cette église et commencer la septième. Donc à partir du verset 7 d'Apocalypse 3, Nous allons lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voilà ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici que je te donne de ceux la synagogue de Satan, qui se dit juive et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ici, nous avions vu déjà un certain nombre de choses. Donc, on avait vu que Jésus se nomme comme celui qui est le véritable. Je vous rappelle que Jésus n'est pas un, mais il est le. Il est le bon berger, pas un bon berger. Il n'est pas un chemin, sinon ça voudrait dire qu'il y en a d'autres. Il est le chemin. Et je vous ai montré que le christianisme est absolument exclusif. Nous sommes souvent accusés d'être trop exclusifs en disant, oui, il n'y a que vous qui avez la vérité. Oui, la vérité a un nom, Jésus. Et il
n'y
en a qu'un seul. Jésus n'est pas un sauveur. Il est le sauveur. Il
n'y
a pas d'autre chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il
n'y
a pas d'autre. Quand vous dites un, ça veut dire qu'il y en a un autre.
Et
il faut être clair. Il
n'y
a pas de compromis avec l'évangile. Soit on se met dans les conditions de Dieu et on a les résultats divins, soit on se dit, bon, c'est peut-être un truc que je peux essayer, mais ça peut être aussi autre chose. Et à ce moment-là, on va en enfer. Et ça, il faut être très clair. Ensuite, il parlait d'avoir les clés de David. Et nous avons vu que les clés de David, c'est le symbole du cœur de Dieu. Et c'est là où justement le Seigneur nous montre clairement que quand on marche avec un cœur pour lui, il y a des portes qu'il va ouvrir que personne ne pourra fermer. Et des portes qu'il ferme que personne ne pourra ouvrir. Mais je vous ai dit aussi que ce verset est souvent prié par les chrétiens n'importe comment. Où les gens font leur volonté et ils disent, Seigneur, ouvre la porte, et de toute façon, si tu ouvres la porte, personne ne pourra fermer. C'est pas comme ça que ça marche. Tu te soumets à Dieu. Et quand tu te soumets à Dieu, Dieu va ouvrir des portes pour toi. Et là, crois-moi, ces portes, personne ne pourra les fermer. Et d'abord, tu dois te soumettre à Dieu. Alors que souvent, les chrétiens prient en disant, Seigneur, ouvre la porte, la bonne porte, et ferme toutes les autres portes. Seigneur, tout ce qui va se passer là jusque dans les prochains jours, Seigneur, je prie pour que tu ouvres la bonne porte et tu fermes toutes les autres. Donc, toutes les circonstances sous-entendues, toutes les circonstances, elles vont venir de toi, Seigneur. Ne prie jamais cela. Ce n'est pas scripturaire. Obéis à Dieu. Et Dieu ouvrira des portes pour toi. Mais ne prie pas des trucs, Seigneur, ferme toutes les portes que tu veux, où tu ne veux pas que j'aille, et ouvre la bonne porte. Là, tu vas être dirigé par les circonstances. Ensuite, verset 8, Jésus leur dit, je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alors Jésus dit ici que cette église a eu peu de puissance.
Et je vous
ai montré que Dieu ne méprise pas les petits commencements.
Soyez
fidèles avec ce que vous recevez du Seigneur.
Il y a
parfois des gens qui ont reçu beaucoup du Seigneur,
qui
ont été extrêmement infidèles.
Et
la plupart des gens, c'est le cas.
Parce
que souvent, les gens ont du mal à contenir ce que Dieu leur donne. Et des années plus tard, vous les retrouvez complètement en bas et souvent rétrogrades. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu prennes ce qu'il te donne et que tu développes. Parce qu'il y a un potentiel que Dieu met en toi.
Mais
ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes à être fidèle. Ensuite, Jésus leur dit, je livrerai les gens de la synagogue de Satan. On ne sait pas exactement ce que ça voulait dire, mais simplement, ça nous parle certainement des persécutions ici. Alors, nous en étions au verset 10 et au verset suivant, donc on va lire, relire verset 10, 11, 12 et 13. Il est dit, parce que tu as gardé ma parole de la persévérance, et moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors ici, en fait, Jésus va nous parler de garder son église à l'heure de la tentation. C'est une bonne traduction. Il y a d'autres traductions qui ont l'épreuve, et ce n'est pas l'épreuve, c'est vraiment la tentation. Et en fait, quand on lit le verset
11,
d'abord il est parlé à la fin du verset 10 pour éprouver, dans le sens tenter les habitants de la terre. Et verset 11, il dit, je viens bientôt. Et en fait, quand Jésus nous parle au verset 10 ici, il nous parle ni plus ni moins de la tribulation. En fait, ceux qui persévèrent dans le Seigneur, qui marchent avec lui, ne resteront pas sur cette terre pendant les 7 ans de tribulation. Et c'est ça que ça signifie ici. Quand on regarde bien, qu'on étudie bien dans le texte original, c'est clair que le verset 10 nous parle d'une tentation qui va venir sur le monde entier. Littéralement pour tenter tous les habitants de la terre. Et je vous rappelle que tenter, ça veut dire chercher à faire chuter quelqu'un. Chercher à faire chuter tous les habitants de la terre. Et juste le verset 1 nous dit, je reviens bientôt. Et ça, c'est l'enlèvement.
Donc,
vous voyez, il faut bien comprendre la relation entre les deux versets, parce que sinon, on est un peu dans la confusion. En fait, Jésus explique ni plus ni moins que ceux qui marchent avec lui seront gardés de la tribulation.
C'est-à-dire
qu'ils ne la subiront pas.
Nous
verrons que lorsque Jésus va venir chercher son église, le diable va se déchaîner. Et évidemment, il va y avoir plein de gens. Parce qu'il va y avoir un déchaînement satanique. Tous ceux qui vont rester vont être des gens inconvertis. Et Dieu va envoyer ses jugements, comme nous le verrons. Ça va être la suite de l'Apocalypse. Mais Jésus va venir préserver son Église en enlevant son Église. Et nous verrons ce que représente l'enlèvement, pourquoi Dieu va enlever son Église, pourquoi Jésus va rechercher sa bien-aimée. Et Jésus dit clairement ici qu'il va garder son Église. Il va garder son Église à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Jésus dit au verset 11, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, Jésus, tout le temps, dans sa parole, nous dit de nous tenir prêts pour son retour. À chaque moment de ta vie, Tu dois être prêt pour partir. Et là, c'est une doctrine claire de la parole de Dieu. Nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir, mais la Bible est claire. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, la Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4:13 que Jésus va revenir. Et c'est le premier retour de Christ que nous détaillerons. Nous allons juste le lire parce que ça concerne les versets que nous sommes en train de lire. Verset 10 et le verset 11 que nous sommes en train de lire d'Apocalypse
3.
La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement, c'est-à-dire le retour du Seigneur, la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Rappelez-vous, Jésus est à la droite du Père au ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc le Seigneur ici dit une chose claire. Il dit qu'il va revenir. Et quand il va revenir, il va venir chercher son église, enlever son église, mais juste une fraction de seconde avant, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Nous verrons tout cela avec précision, je vous l'expliquerai. Et tous ensemble, nous serons enlevés. Donc revenons sur l'Apocalypse, parce que ce n'est pas l'enlèvement que je veux détailler ici. Nous détaillerons l'enlèvement au temps opportun dans notre étude sur l'Apocalypse, bien sûr. Mais Jésus dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, verset 11, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, notre attitude, c'est l'attitude de savoir que nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Dans l'Exode chapitre 12, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël d'apprêter l'agneau pascal. Donc évidemment, c'était une figure de Jésus. Une image de Christ. C'est la Pâque. La Pâque, il prenait un agneau sans défaut. Il faisait couler le sang. Il égorgeait, donc il faisait couler le sang. Et ils appliquaient ça sur les linteaux de la porte. Et ils mangeaient l'agneau. Mais dans Exode 12, au verset 11, Dieu donnait des instructions sur comment il devait manger l'agneau. Dans quelle attitude il devait manger. Vous savez, souvent, quand vous avez passé une journée où vous avez travaillé, vous venez à la maison et la première chose que vous allez faire, c'est vous mettre à l'aise. Surtout, par exemple, si vous travaillez en costume, vous êtes là, vous rentrez à la maison, vous n'allez pas vous mettre à table avec costume cravate. Ou madame, si monsieur il fait ça, tu lui dis enlève ta veste et enlève ta cravate. En général, on va se mettre un peu plus à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à repartir tout de suite, on est prêt à manger. À se reposer, entre guillemets, un peu, et à passer un temps où on va manger, on va se restaurer. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que quand Dieu va leur donner de manger l'agneau pascal, il va leur dire une chose. Il va leur dire quand vous le mangerez, donc l'agneau pascal, vous aurez vos reins saints, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel.
Muze muzige mukenyeye mwambaye inkweto mufashe inkoni mu minwe muze muzige vuba na vuba iyo niyo pasika yanjeje uhoraho.
Ça c'était l'attitude qu'il devait avoir.
Iniyo nyifato bari okwe kuba bafise.
C'est une image pour nous.
Nigicapo kuri twese.
Jésus étant bien sûr l'agneau pascal pardon étant l'image de Jésus.
Umwagazi wa pasika nigicapo cha Yesu.
Mais l'attitude des Israélites.
Inyifato y'abanyisraeli.
C'était de manger ça rapidement.
Kwari ko babijya vuba na vuba.
Et d'être prêt.
Biteguye
à partir. Ils n'allaient pas partir dans la seconde suivante. Ils auraient eu le temps de s'habiller, de s'apprêter pour partir. Parce que le jugement allait tomber, eux allaient être épargnés. Mais ils devaient être prêts à partir tout de suite. Et ils ne sont pas partis juste là, à l'instant même, quand ils ont mangé. Ça a pris quelques heures. Et en fait, l'idée ici, c'est toujours d'être prêt à partir. D'être prêt à partir. Parce que ta demeure éternelle n'est pas dans ton corps ici et dans les conditions de la terre ici. Un jour il va venir, on ne sait pas quand. Peut-être qu'on sera vivant et qu'on vivra l'enlèvement. Mais je ne veux pas spéculer sur cet événement parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont beaucoup spéculé là-dessus. Mais on sait que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Chercher son Église. Donc Jésus nous dit dans l'Apocalypse 3, verset 11, qu'il va revenir. Notre attitude, c'est d'être prêt. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je crois être Paul, dans Hébreux 11, va nous dire aussi l'attitude que nous devons avoir en général dans notre vie.
Hébreux 11,
verset
13
jusqu'au verset 16. Et là, la Bible va nous montrer l'attitude que nous devons avoir. Le fond de ta vie. Le fond de ta vie, c'est de ne pas t'accrocher à cette terre. Maintenant, nous allons voir l'équilibre, parce que là aussi, il y a eu tellement de débordements. La Bible nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant, regardez bien cette expression, qu'ils étaient quoi ? Étrangers et voyageurs sur la terre. Tu es étranger et voyageur sur cette terre. C'est-à-dire que ta vie sur la terre est un passage. C'est un passage. Tel que tu connais la condition de la terre aujourd'hui, c'est un passage. Comme disait Paul, nous sommes entrés dans ce monde nu, nous en sortirons nus. Tu n'emmèneras rien. Tu n'emmèneras rien de ce monde. Parce que ce monde a été dévoué à la vanité. Et ça doit toujours être quelque chose dans ton cœur. Tu n'emmèneras que tes œuvres avec toi. Les œuvres que tu auras faites dans le Seigneur. C'est pour ça que tu auras une récompense par rapport aux fruits que tu auras portés dans le Seigneur. Mais il est clair que la Bible nous dit que nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors maintenant, il y a des gens qui ont dit, mais bon, puisque je suis étranger et voyageur sur cette terre, prions et demain nous mourrons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est les chrétiens qui ne font rien de leur vie. Ils ne pensent pas que Dieu veut faire des choses extraordinaires au travers d'eux. Ils se disent, de toute façon, le monde est voué à la vanité. Moi, simplement, je vais prier. Je vis ma petite vie tranquille. J'attends de mourir. Et j'irai au ciel.
nitahire kwa papa.
Non, Dieu ne t'appelle pas à ça.
Imana sivye kugombera.
Dieu t'appelle à une destinée terrestre.
Iragomba ko hari cushika ko mwisi.
Pour que tu le serves.
Uyikorere mwisi.
Que tu mettes ta vie à sa disposition.
Ubuzima bwawe bube ngaho buyikorera.
Que tu étendes son royaume.
Wagura ubwami
bw'Imana. Que tu amènes les âmes perdues.
Uzana badakijije mu
bwami. Usengere prochain.
Usengere mwene
Yesu. Pour que tu manifestes de l'amour à ton prochain.
Ugaragaza urukundo kuri
mwene Yesu. Pour que tu finances son royaume.
Ushigikira ubwami bw'Imana.
Pour que tu fasses avancer son royaume.
Uteze imbere ubwami bw'Imana.
Influencer le royaume de Dieu dans ce monde. Tout ça, tu dois le faire. Sans jamais oublier que tu es étranger, voyageur sur la terre.
Vous
voyez, donc c'est ces deux dimensions dans lesquelles nous devons vivre. Dans notre foi, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. C'est ces deux dimensions. Se dire, j'ai l'éternité, je ne serai pas. C'est juste un temps ici. Je sais qu'il revient. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas construire une maison. Parce que si Jésus ne revient pas pendant ma génération, il faut que je laisse des choses à mes enfants. Et la Bible nous dit de laisser un héritage à nos enfants.
Vous
voyez, il y a eu tellement de gens qui ont tordu les choses. Ils ont pris juste une partie de la parole de Dieu
en
disant de toute façon, je suis étranger, voyageur sur la terre. Jésus peut revenir demain. Donc, on ne fait rien. On ne produit rien. Ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Tu dois développer ta vie de foi ici. Je vais te dire une chose. La foi, tu n'en auras plus besoin quand tu seras là-haut. Aujourd'hui, tu as besoin de foi parce que tu es dans ton corps. Et ta foi, c'est ce qui amène la puissance et la gloire de Dieu. Dans tes circonstances, c'est ce qui amène l'avancement du royaume de Dieu dans ta vie. Donc, il faut que tu apprennes à développer ta relation avec Dieu. Que tu apprennes à développer des relations divines dans ta vie avec les gens. Que tu apprennes à prospérer pour financer le royaume. Que tu sois en bonne santé pour pouvoir témoigner de Jésus quand tu seras dans un âge avancé. Tu dois comprendre comment Dieu veut t'utiliser avec les dons qu'il t'a
faits.
Afin d'aller là où tu peux aller le plus loin possible. Pour dire comme Paul, j'ai achevé ma course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Mais pour cela, il faut que tu travailles.
Il ne
faut pas que tu restes inactif.
Il ne
faut pas que tu dises, j'attends le ciel, je ne vais rien faire en attendant. Ça, c'est une bêtise. Tu dois chercher tout ce que Dieu te montre dans sa parole et le développer au maximum. Tu dois chercher tout ce que le Seigneur a pour toi. Tu dois développer tes dons. Tu dois découvrir ta destinée. Tu dois courir dans cette destinée divine. Quel que soit l'âge que tu as, quel que soit l'âge auquel tu as été sauvé. Peu importe, il te reste toutes ces années à vivre devant toi. Et tu dois prendre ta destinée en main. Et courir ta course. Et si tu es jeune, tu vas te dire, ouh, j'ai toute la vie devant moi. Mais j'ai aussi des décisions à prendre. Ces décisions doivent être influencées par le Seigneur. Je dois chercher sa face. Je dois me laisser influencer par lui. Je dois prendre des décisions qui vont déterminer des directions dans ma vie et qui vont forger ma destinée. Parce que tu as toute la vie devant toi. Et tu sais, cette vie va passer vite. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça passe très vite. C'est pour ça qu'il va falloir que tu construises, que tu bâtisses selon le Seigneur dans ta vie. Et si tu le fais, alors tu vas accomplir des choses. D'abord, tu vas être un chrétien accompli. Tu vas vraiment glorifier le Seigneur. Et d'autre part, tu vas préparer quelque chose pour ton éternité. Jésus dit, la deuxième partie du verset 11, il dit, tiens ferme ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne.
Aravuga ku gice cya kabiri cy'umurongo w'icumi na rimwe ngo ntihagire umire kuco ufise ntihagire ugutwara ico gitsibo cawe.
La Bible nous parle de couronne.
Bibiliya tubwira igitsibo.
Et là aussi la Bible est claire.
Aha naho nyene Bibiliya tomora neza.
Tiens ferme ce que tu as, ce que tu as.
Umire kuco ufise.
Il y a des gens qui ne comprennent pas ça.
Hari abantu batabitahura ibi bintu.
Ils se font voler leur récompense.
Bibwa impera.
Ils se font voler leur couronne.
Bibwa igitsibo cawe.
Et c'est eux les responsables.
Kandi nibo bazobibaza.
Comment tu peux te faire voler ta couronne?
Ni gute ushobora kwibwa igitsibo?
Mais tu en es responsable.
Ni wowe uzobibazwa.
Il faut que tu comprennes que c'est ta responsabilité.
Nukumenya ko ari uruhara rwawe.
De créer ta récompense et ta couronne donc.
Kwironderera impera yawe n'igitsibo cawe.
La Bible nous parle de couronne.
Bibiliya tubwira iby'igitsibo.
Il y aura certainement des couronnes différentes. Paul en parle.
Hazoba hari ibitsibo bitandukanye Paul arabivuga.
Dans 1 Corinthiens chapitre 9.
Mu bikorinto ba mbere gice cy'icenda.
Verset 24 et 25.
Murongo wa 24 25.
Paul nous parle de couronne à gagner.
Paul aratubwira iby'ibitsibo.
Il va dire la chose suivante. Il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible.
Nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ari kuhegwa akabumwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose, abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira.
Vous savez, ce qu'on regarde à la télévision, les Jeux Olympiques.
Iyo turaba kuri televiziyo twabona Jeux Olympiques.
C'est issu un peu, enfin, c'est issu de cette époque-là. Paul vivait. C'était les Grecs, si mes souvenirs sont bons, qui ont inventé ces jeux. Bien des siècles avant l'Empire romain. Et ils étaient dans des stades. C'est eux qui ont créé ça. Il y a un certain nombre de choses qui se font en athlétisme, entre autres. En saut. En lancer du javelot. Tout ça, les Grecs pratiquaient déjà ces sports-là. Et à l'époque, ils n'avaient pas médaille d'or, médaille de bronze, ou médaille d'argent et médaille de bronze. On leur donnait des espèces de couronnes là. Et c'est ce dont parle Paul ici, bien évidemment. Et c'était leur récompense, la récompense de celui qui gagnait. Tu as une course à courir. Et autour de toi, tu as des adversaires. Ces adversaires ne sont pas tes frères et sœurs en Christ. Mais c'est tout ce qui va essayer de gâcher ta destinée et de freiner ta course. Quand Paul parle dans le verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Là, il parle bien sûr d'un groupe de coureurs. Et ils font la compétition entre eux. Évidemment, c'est celui qui passera le premier de la ligne d'arrivée qui remportera le prix. Et c'est exactement ce que nous vivons dans nos vies. Si tu laisses les circonstances t'envahir, si tu t'embarques avec tout un tas de poids qui vont empiéter sur ta destinée, si tu prends des mauvaises décisions, si tu ne sais pas marcher dans la foi, si tu ne sais pas développer ta relation avec le Seigneur, si tu ne sais pas chercher conseil auprès du Très-Haut pour prendre tes décisions,
eh bien
tout cela, ce sont les adversaires que tu as avec lesquels tu dois courir. Et il va falloir que toi tu cours plus vite que les autres. C'est-à-dire toutes ces choses-là qui vont essayer d'aller contre toi. L'ennemi qui va mettre des obstacles dans ta vie. Quelqu'un que tu vas rencontrer qui n'est pas la bonne personne avec laquelle tu vas faire ta vie. Alors que Dieu t'avait dit non. Et tu as persévéré. Et paf, tu es tombé dans le piège. Des choses que tu vas, où tu vas leur donner une importance beaucoup capital dans ta vie. Devant ce que le Seigneur veut faire pour toi. Et ça mange toute ta vie. Ça prend toute ton attention. Et puis, cette chose-là passe devant le Seigneur. Et le Seigneur devient deuxième. Puis troisième. Puis xème dans ta vie. Ça va très vite, ça. Régulièrement. Tu dois faire ce qu'on appelle un petit check-up. Et tu dois faire attention à ce que Christ reste le numéro un dans ta vie. Sinon, tu risques de perdre la course. Paul nous dit bien clairement que nous pouvons perdre notre course ou nous pouvons la remporter. Mais c'est pour ça qu'il va falloir que tu apprennes. Le verset 25 nous dit un certain nombre de choses. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une course. Ils veulent gagner. Dans le marathon de ta vie, tu dois prendre la décision de gagner. Tu as quelque chose dans l'éternité à gagner. Rappelez-vous que le salut est gratuit, mais que la récompense, c'est quelque chose que nous devons gagner. Et nous gagnons notre récompense en obéissant et en faisant ce que le Seigneur nous demande. Il y a des choses dans lesquelles tu vas être obligé de renoncer. Où Dieu te dira non, ce n'est pas, j'ai pas ça pour toi. Arrête de me prier pour ça parce que je n'ai pas ça pour toi. Oui, mais Seigneur, je veux. Et des fois, Dieu te dira non. Ce n'est pas pour toi, je n'ai pas ça pour toi. Oui, Seigneur, ne permets pas alors que je le fasse.
Ce
n'est pas une prière biblique, ça. Tu as une volonté. Tu es capable de faire ce que tu veux faire. Parce que tu as une volonté. Dieu ne t'a pas créé comme une machine. Dieu t'a créé avec un pouvoir de décision que tu peux soumettre à Dieu ou que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux faire d'une façon charnelle. Et là, tu risques d'empiéter sur ta récompense. Paul nous met en garde. Il nous dit, voyez, les gens du monde courent pour quelque chose qui va être détruit. Il y a des gens qui dévouent leur vie à des choses qui seront détruites. Ils donnent toute leur vie pour ça. Paul nous dit, vous êtes beaucoup plus intelligent que ça. Vous comprenez que vous êtes en train de travailler pour l'éternité. Et je vous explique ça en détail parce que juste après, Jésus va aborder quelque chose de très important. Mais d'abord, on nous parle de couronne. Cette couronne que soit on gagne, soit on perd. 1 Pierre 5, 4. La Bible nous dit, lorsque le souverain berger, littéralement, pasteur, ça fait pas, c'est pas extraordinaire, paraîtra, c'est-à-dire qu'il reviendra, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, parfois, il y a des expressions bibliques qui peuvent être simplifiées quand on met d'autres mots. Lorsque le souverain berger, c'est-à-dire Christ, le berger des bergers, paraîtra, c'est-à-dire reviendra, vous obtiendrez, sous-entendu à ce moment-là, la couronne incorruptible de gloire. Là encore, ça nous parle de récompense. Et nous verrons que nos récompenses nous seront données pendant la tribulation. Jésus va venir enlever son église. Il y a la première résurrection, la première phase précisément de la première résurrection, j'expliquerai ça. Et les morts en Christ ressuscitent. Nous les vivants qui sommes là serons transformés. Et on rejoindra le Seigneur dans les airs pour aller au troisième ciel, là où il y a le trône de Dieu, avec notre corps ressuscité. Et pendant les 7 ans, nous le découvrirons en détail. Nous passerons devant le tribunal de
Christ,
chacun d'entre nous, et c'est là où Dieu nous donnera nos récompenses. On en avait déjà parlé précédemment, mais là encore on le voit avec ce verset. Il est dit, quand Jésus va venir, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. C'est à ce moment-là où Dieu nous donnera nos récompenses. Mais le verset suivant d'Apocalypse 3, verset 12, va nous donner plusieurs choses à propos de cette récompense. Verset 12, il est dit, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau.
Gunesha, nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niwo Yerusalemu musha ururu kuvuye mu ijuru ku Mana yanje kandi nzomwandika ku izina ryanje risha.
Alors ici dans ce verset 12 il y a une double promesse.
Aha muri umurongo wa 12 hari amasezerano abiri.
Et de plus en plus, plus je fouille la parole de Dieu, plus il est clair que dans ce que le Seigneur va nous donner comme récompense, il va y avoir deux types de récompenses. Il y en aura une pour le millénium et il y en aura une pour l'éternité. Et je vais vous le montrer dans ce verset. C'est très intéressant. Regardez bien ici. Il est dit, celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va persévérer jusqu'au bout, qui ne va pas renier mon nom. On avait déjà discuté sur cela, je ne vais pas revenir sur cet enseignement. Mais regardez bien ici. Il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Cela concerne le millénium. Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire, c'est très simple. Parce que quand il s'agit de temple et de royaume de Dieu, eh bien, cela ne peut pas concerner l'éternité que nous passerons avec Dieu lorsqu'il aura recréé la surface de la terre, nouveaux cieux et nouvelle terre. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Quand on parle de temple, on parle obligatoirement de millénium. C'est-à-dire lorsque Jésus va venir régner 1000 ans. À la fin de la tribulation, après les 7 ans de tribulation, Jésus va récupérer la gestion de sa propriété, la terre. Et le millénium, nous allons entrer dans le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus. Nous savons que Jésus va régner à Jérusalem. Et là, il va y avoir un temple. Et nous régnerons avec lui. Je vous le montrerai un peu plus tard. Et là, il est évident que nous aurons des positions différentes par rapport à ce que nous aurons fait dans notre corps. Comment nous aurons obéi à Dieu par rapport à ce qu'il nous a demandé. Il y aura des simples soldats et il y aura des généraux. Entre les deux, il y aura toutes les catégories. C'est très clair parce que la Bible nous dit que nous allons régner sur les nations. Je vous rappelle que le millénium, c'est le temps où Israël verra une des promesses de l'Ancien Testament s'accomplir. C'est-à-dire que le descendant de David, Jésus, le Messie, régnera à Jérusalem, dans le temple, et que Israël sera la nation la plus puissante du monde. Et que le Messie régnera à partir de Jérusalem, au travers d'Israël, sur le monde entier. Et nous verrons que le monde entier connaîtra, la terre connaîtra une prospérité qu'elle n'a jamais connue avant. Une paix qu'elle n'a jamais connue d'avant. Et nous verrons les critères qui nous sont décrits dans la Bible à propos du millénium. Et nous régnerons avec lui. Tous ceux qui seront désobéissants envers Dieu, ce qui ne sera plus notre cas, le moindre péché qui sera commis sera réprimé. Et c'est nous, selon notre position, qui ferons régner l'ordre sur la terre. Donc nous aurons une part. Et là, c'est clair. Jésus dit à celui qui va vaincre, il va y avoir quoi? Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc ça, c'est très clair. C'est l'époque du temple. Et ça fait référence obligatoirement au millénium. Pourquoi? Parce que regardez la fin des temps. On va lire Apocalypse 21. Il y a plusieurs versets dans l'Apocalypse à la fin. Apocalypse 21, on va lire d'abord le verset 1 et le verset 2, et puis nous lirons aussi le verset 22. Il est dit, verset 1 et 2, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. On va voir ce que, on verra quand nous lirons ces chapitres, que nous serons à la fin, ce que veut dire nouvelle terre et nouveaux cieux. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'y était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, nous savons que la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel et se matérialisera sur la terre. Puis Dieu donne toute une description dans sa parole au chapitre 21 de la nouvelle Jérusalem. Mais quand nous étudions le verset 22, c'est là où vous allez découvrir quelque chose. C'est très clair. Il est dit ici, verset 22, « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et ça, c'est la période donc après le millénium, une fois que le diable et les démons et que tous ceux qui étaient en enfer, qui étaient ressuscités, ont été jugés. Tout le monde a été jugé. Ils ont été jetés dans l'étang de feu et de soufre. Dieu crée, refait littéralement dans le grec, renouvelle les cieux et la terre. Et là, il fait descendre la nouvelle Jérusalem. Et nous allons régner avec lui. Et la Bible est claire, il n'y aura plus de temple. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous éclairera. Nous vivrons dans la gloire de Dieu totale avec le monde matériel qui aura été entièrement recréé par Dieu, où il n'y aura plus une trace du péché. Et la Bible est claire, il n'y aura plus de temple. Donc tout ce qui concerne un temple, obligatoirement, si c'est Christ qui règne et qu'il y a le temple, ça concerne le millénium. Revenons à Apocalypse 3. Verset 11. Ah, on découvre des choses quand on médite la parole. Hein. Donc verset 12, il est dit, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc ça concerne le millénium. C'est une partie de la première partie je dirais la promesse. Et il n'en sortira plus. Numéro, deuxième partie de la promesse, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau.
Ngo kandi ntazosohoka ukundi nanje ngo nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niwe Yerusalemu musha uru kuvuye mu ijuru ku Mana yanje kandi nzomwandika ku izina ryanje risha.
Donc ici Jésus va inscrire un certain nombre de choses sur nous.
Ahero Yesu hari ibintu ngo azotwandika ko azodushirako.
Le nom de Dieu.
Izina ry'Imana.
Le nom de la ville de mon Dieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem.
N'iry'umugwa w'Imana.
Et mon nom nouveau.
Et
ça, c'est un mystère
dont
nous n'avons pas d'explication.
Mais
c'est les choses que Jésus va écrire sur nous. Il va écrire ça sur nous. Vous aurez des inscriptions sur vous. Nous aurons des inscriptions sur vous. Et ça, ça fait référence à lorsque, justement, c'est là ce qu'on appelle la fin des temps, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'Apocalypse, chapitre 21, je crois qu'on a lu, oui c'est ça, 21, et ça fait référence justement à l'autre partie, c'est-à-dire à l'éternité. Donc dissociez bien la récompense, la couronne. Apparemment, va avoir deux incidences sur notre position dans le millénium et sur notre position dans l'éternité. Vous savez, c'est très important de méditer sur l'éternité. Si vous ne méditez pas sur l'éternité, vous aurez du mal lorsqu'il va y avoir des moments où il y a des croisées de chemin dans votre vie, où il y a la chair qui est là, le diable qui essaie de mettre des pressions sur votre chair et la volonté de Dieu. Il y a des moments dans nos vies, vous savez, des moments qu'on appelle cruciaux, c'est-à-dire des moments très importants de décision.
Et
une chose qui vous permettra toujours de prendre la meilleure décision, c'est de passer du temps à méditer sur l'éternité,
à
avoir cette dimension de l'éternité. Frères et sœurs, c'est très important. Demandez à Dieu cette dimension de l'éternité. Seigneur, montre-moi. Et des fois, tu vas ouvrir la parole et à ce coup, ça va faire...
Wow.
Ça va devenir tellement réel et sa présence va venir sur toi pour te montrer ces choses, parce que tu ne peux pas vivre une vie glorieuse sans avoir une révélation sur l'éternité. Ta motivation toujours doit être de porter du fruit, sachant que tu es un étranger voyageur sur cette
terre.
Bien sûr, tu ne vas pas négliger les choses de cette vie, parce que j'ai vu des gens faire des bêtises gigantesques, vivre vraiment dans la pauvreté parce que on ne devait rien faire sur cette terre, avoir des relations pourries en disant, moi de toute façon j'ai pas besoin des autres, j'ai besoin que du Seigneur. Ne jamais construire des choses avec les autres, alors que tu ne pourras jamais réussir tout seul. Tu as besoin des autres. Et si tu ne le comprends pas maintenant, tu échoueras dans ta vie. Dieu va peut-être te montrer les plus belles choses. Tu échoueras. Si tu es quelqu'un qui pense que tu n'as pas besoin des autres, parce que ton frère ou ta sœur, il a aussi l'Esprit de Dieu en lui, et que obligatoirement, quoi que ce soit que le Seigneur va te demander, il va y avoir obligatoirement des interactions, c'est-à-dire quelque chose qui va interagir entre des êtres humains. Dieu va t'amener des gens, et ces gens-là, il faudra que tu saches les reconnaître, parce qu'ils vont t'aider aussi dans ta destinée, ou toi tu vas les aider dans leur destinée. Ça s'appelle des rendez-vous divins. Mais si tu ne sais pas reconnaître ces choses, si tu es tout le temps fermé à ces choses, tu ne pourras jamais réussir ce que Dieu te demande de faire. Donc tu dois comprendre
urasabwa kumenya
qu'il y a l'éternité devant toi.
Ngo hari bihe bitazoshira imbere yawe.
La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est dans Ecclésiaste.
Mu mutima w'umwana w'umuntu hari cyumviro cy'ibihe bitazoshira.
Il a mis la pensée de l'éternité.
Icyumviro
cy'ibihe bitazoshira. Ça veut dire qu'il y a des temps dans ta vie où tu dois songer à l'éternité, méditer sur l'éternité, pour que cette dimension de l'éternité s'infuse en toi, pour que les motivations que tu as pour diriger ta vie sur cette terre soient des motivations qui soient infuses. Influencé par la révélation que tu as sur l'éternité. Si tu n'as pas ces choses, tu vas vivre au jour le jour. Tu vas être là, à droite, à gauche, comme beaucoup de chrétiens. Je rencontre beaucoup de chrétiens comme ça. Ils sont dans leurs trucs, leurs petits problèmes, leurs petits machins. Ils sont en train avec leurs petites prières. Ils
ne
voient pas grand chose. Bon, de temps en temps, ils sont un peu excités avec les choses de Dieu.
Mais
ce ne sont pas des gens de conviction. Tu dois apprendre avec quelqu'un de conviction. À marcher dans tes convictions. À te décider à marcher selon son cœur. Avoir la révélation de l'éternité. C'est très important, frères et sœurs. Et ça prend du temps devant Dieu. En te plaçant devant lui. Et sois honnête, dis Seigneur, moi, ces choses-là, je
ne
connais pas. Mais Seigneur, tu es un Dieu d'éternité. C'est pourquoi je veux vraiment rentrer dans cette dimension. Je te garantis, quand viendra les moments difficiles dans ta vie, tu prendras la bonne résolution. Tu iras dans la bonne direction. Ça te coûtera. Et dans les moments où ça chauffera dur, dans les moments où rien ne semblera s'ouvrir devant toi, mais sachant que tu as vraiment obéi au Seigneur, tu vas te tenir ferme. Et c'est là où Dieu va se montrer. Et tu vas sortir des situations les pires et glorifier ton Seigneur. Jean va clôturer au verset 13 parce que Jésus lui dit: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Constamment, il nous est rappelé que la parole de Dieu est là pour nous instruire. Elle est là pour nous corriger. Elle est là pour nous construire. Mais encore, faut-il écouter et obéir. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.